Voilà, les oreilles loin du front, une programmation éclectique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup d'appels là pendant le passage de ce titre pour demander justement comment peut-on passer d'un appel à brûler les écoles de commerce subitement, comme ça, dans un grand tube de Boney M, qui parle quand même de Babylone.
À brûler Babylone, c'est un peu un appel à brûler Babylone.
Voilà, et une des raisons, enfin nous, on se réfugie souvent derrière cet argument-là, mais il est vrai, c'est qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de directeur artistique, on est une petite entreprise mal organisée. Et on s'en excuse, bien sûr. Voilà. Et donc, on va continuer cette émission organisée, là pour le coup. Hein, sur la musique, c'est vrai qu'on pêche un peu parfois, mais sur le fond, on est là. Et on continue donc avec Daniel Ben Saïd pour 3 nouvelles dates, Pierre.
Voilà, depuis 3 émissions, enfin, on a fait une petite pause pendant les fêtes de Noël, mais on diffuse depuis le début du mois de janvier une série d'entretiens ou de productions radiophoniques qu'on a fait avec Daniel Ben Saïd, à qui on a proposé de nous raconter à travers 13 dates, alors évidemment très, très subjectif dans le choix, 13 dates au cours du XXe siècle pour essayer de raconter une histoire partielle, mais du mouvement ouvrier à travers le monde. Alors on a parlé évidemment de la révolution de 17, on a parlé de l'assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg, on a parlé de 1936 en Espagne, on a parlé de 54 et du déclenchement de la guerre d'Algérie, mais aussi plus largement des luttes pour l'indépendance nationale. Et aujourd'hui on attaque les années 60. On va entendre un premier épisode sur 1961 et l'assassinat de Patrice Lumumba, qui est peut-être le pendant de l'autre épisode qu'on avait fait sur 1954 et le déclenchement des luttes pour l'indépendance nationale. Peut-être que 61, c'est aussi la reprise en main par les États occidentaux de formes néocoloniales, via des formes néocoloniales des pays et des territoires qui avaient pris leur indépendance. On parlera évidemment, faut pas oublier que c'est Ben Saïd quand même, de mai 68, mais mai 68, pas seulement en France et pas seulement chez les étudiants. On reviendra sur ce qu'a été cette plus grande grève ouvrière de l'histoire, une des plus grandes grèves ouvrières de l'histoire de France, mais aussi à l'échelle européenne et mondiale, les mobilisations qui y a pu y avoir. Et puis on reviendra dans le dernier de ces 3 épisodes aujourd'hui sur la question du féminisme, puisqu'en 71, un groupe de féministes déposait une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, mais déposait une gerbe à la femme du soldat inconnu, en affirmant qu'il y avait encore plus inconnu que le soldat inconnu. C'était sa femme, et c'était un des moments forts qui a vu s'enclencher le mouvement féministe des années 70. Voilà, donc on passe un peu plus d'une heure avec Daniel Ben Saïd, qu'on retrouvera pour la suite la semaine prochaine. On commence donc avec 1961.
Janvier 1961. Assassinat de Patrice Lumumba. Alors que la Belgique cède son indépendance au Congo en juin 60, elle entend bien garder la main sur les ressources minières du pays, notamment sur le Katanga dont elle soutient la sécession. Premier ministre du Congo, Patrice Lumumba tente de s'opposer à cette politique de pillage. Après le coup d'État de Mobutu, il est assassiné par les autorités locales du Katanga le 17 janvier 61. Nous avons retenu la date de l'assassinat de Lumumba et de ses partisans, après lui, parce qu'elle nous a semblé emblématique du néocolonialisme, pillage organisé des richesses par le soutien systématique aux groupes armés de tous bords, au prix de massacres sans fin. En plus, la figure de Lumumba m'intrigue. Lui dont Sartre disait qu'avec sa mort il est devenu toute l'Afrique, que Césaire appelait le Verbe, est quasiment inconnu des jeunes militants occidentaux. J'ai l'impression qu'on pourrait voir là un symptôme du sentiment d'impuissance face à la situation africaine, qui fait que l'on n'y perçoit plus que des conflits ethniques, champ ouvert à l'intervention humanitaire plutôt qu'à la solidarité politique, faute de savoir qui soutenir et pourquoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a un flou autour de l'image de Lumumba, et c'est en partie, alors que d'autres images de militants africains, des indépendances, je ne dis pas qu'elles sont très connues, mais comme Amilcar Cabral ou certains dirigeants de la guerre d'indépendance angolaise ou mozambicaine, sont peut-être, restent malgré tout plus connus que Lumumba. Il y a peut-être aussi des raisons, c'est qu'il a quand même été assassiné jeune. Je ne sais pas s'il y a des traces écrites, c'est aussi une culture de l'oralité, ça ne veut pas dire que les gens n'écrivaient pas, mais je pense qu'il a écrit peu, peut-être pas plus que Thomas Sankara au Burkina ou quelque chose comme ça. Et des textes qui sont peu ou mal reçus dans, puisqu'on est là, dans la culture européenne. C'est-à-dire, il n'y a pas la même familiarité, même qu'avec, évidemment, pour prendre le point de comparaison, avec les mouvements révolutionnaires latino-américains, on a l'impression qu'on parle dans la même histoire, le même héritage culturel, avec les différences, etc. Là, l'Afrique, c'est effectivement un point obscur qui, probablement, d'ailleurs, est tributaire, inconsciemment ou à notre corps défendant, de la folklorisation coloniale qui se nourrit d'un élément de réalité. C'est que le type de développement social, pas partout, évidemment pas l'Afrique du Sud, mais des sociétés africaines, fait que le type, et ce n'est pas pour le valoriser, moi je le constate à peu près tous les ans avec mes étudiants africains, on n'est pas dans le même registre spontanément de rationalité qu'avec même des étudiants iraniens, et ça reflète un autre rapport à l'histoire, à la tradition, aux cultures locales, aux langues, etc. Alors tout ça probablement fait écran par rapport à une figure de celle comme Lumumba. Pourtant, je crois que la date est effectivement symbolique doublement de ce que tu as dit d'une part, c'est-à-dire au moment finalement des indépendances africaines où on pouvait penser que c'était un nouveau départ pour l'Afrique, certains étaient plus nuancés. Il y avait le très très vite suivi du bouquin de René Dumont sur l'Afrique noire et mal partie. Mais donc c'était une victoire, l'indépendance des États. Après, restait à construire une société, un État. Et là, se sont mises en mouvement aussitôt les politiques néocoloniales de reconstruction ou de reconversion des liens de dépendance économique, d'accès aux matières premières, le mécanisme de l'endettement qui est venu plus tard comme un mécanisme de subordination. Et quand il le fallait, et là, c'est toute une stratégie, c'est-à-dire que ce qui s'est expérimenté dans le laboratoire congolais, de jouer sur la décomposition d'appareils d'État. Finalement, il y a des indépendances étatiques, mais qui n'ont pas, dans la plupart des cas, je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, qui n'ont pas vraiment construit de réalité nationale. Dans les États européens, il y a un va-et-vient entre la nation et l'État dans leur formation. Il n'y a pas une réalité nationale qui préexiste clairement, mais l'État homogénéise et aboutit à une réalité nationale. Là, les indépendances étatiques qui sont venues sur les découpages de la colonisation, parfois avec des chevauchements délirants entre la Tanzanie, etc., bon, mais auraient pu construire par ailleurs des réalités nationales, peut-être artificielles, mais ça suppose un développement, une politique redistributive, etc. Or, la fragilité de ces États plurinationaux en formation, plus la poursuite du pillage impérialiste, et aujourd'hui avec les formes extrêmes, qui est que la ponction de la dette fait que, pour la plupart des États africains d'Afrique centrale, le seul paiement des intérêts de la dette est plus élevé que les budgets cumulés de santé et d'éducation, ce qui veut dire d'ailleurs une rechute, y compris dans la colonisation culturelle, parce que quand on ne peut plus payer des instituteurs, on diffuse des programmes enregistrés par les firmes de communication multinationales avec des répétiteurs. Mais bon, les programmes sont aussi des véhicules idéologiques. Bon, et donc, il y a eu ce laboratoire-là qui est de jouer très vite donc, sur les rivalités tribales qui n'ont pas fusionné totalement dans des entités nationales. Et dans les cas extrêmes, évidemment, l'enjeu du Congo est un enjeu majeur, mais on a eu par la suite au Nigeria, on a eu aujourd'hui à de toute autre échelle avec la Côte d'Ivoire, etc. Bon, ça a été de jouer aussi des guerres locales, en plus présentées, et ça c'est le comble d'ailleurs du cynisme, comme presque des oui, comme la remontée à la surface d'une sauvagerie naturelle, essentielle et inhérente. C'est-à-dire, c'est la confirmation de l'image de la barbarie que renvoie le colonisé. Alors que la plupart de ces guerres, finalement, sont ou instrumentalisées ou carrément suscitées par les jeux d'intérêt, de partage ou de repartage de l'Afrique, qui est une question récurrente depuis le congrès de Berlin à la fin du XIXe siècle, dont l'enjeu était précisément le dernier grand partage colonial de l'Afrique. Alors, bon, voilà. Alors, en même temps, l'autre chose, ce qui fait que... elle n'a pas à être réhabilitée, mais enfin, rehausser l'image de Lumumba serait aujourd'hui importante, c'est que c'est un des premiers personnages des indépendances africaines, avec un destin absolument tragique. Moi, à l'époque, j'étais à la JC... pareil, hein, on n'avait pas l'idée que Lumumba représentait un mouvement communiste, mais ça faisait partie du processus, là encore, en même temps que Cuba, en même temps que l'Algérie, quelque chose qui montait en puissance. Bon, apprendre qu'il avait été assassiné, qu'on n'avait pas de cadavre, qu'il avait été dissous éventuellement dans l'acide sulfurique, y compris les circonstances rajoutées à la tragédie. Mais c'était dans un contexte où l'émergence de la figure de Lumumba s'inscrivait aussi dans un ensemble. Alors, les dates ont leur importance, mais 61, alors, il y a les mouvements des colonies portugaises qui ont marqué toute cette période-là, même si on leur a prêté d'intérêt, surtout à partir de l'explosion du Portugal lui-même dans les années 70. Mais enfin, ça existait déjà. Et surtout, ça fait partie de la montée en puissance de tous les mouvements, soit culturellement des mouvements de la négritude, effectivement, et de la littérature antillaise, notamment, antillaise au sens large, haïtienne, Jacques Roumain, Césaire comme référence majeure là-dedans, etc. Et aussi, avec un très léger décalage dans le temps, ça faudrait vérifier les dates, mais l'émergence du mouvement noir aux États-Unis, les premières émeutes de Los Angeles, qui n'étaient pas des émeutes strictement noires, mais enfin, la dimension d'un mouvement noir émergent était déjà présente, mais déjà dans les émeutes étudiantes de 61-62, qu'on connaît plus mal, il y avait cette dimension-là. Donc, la montée de la revendication noire aux États-Unis et en Afrique fait un ensemble. À quoi il faut ajouter ça fait partie de cette dynamique-là, l'écho qu'a pu avoir à l'époque, on y revient un peu aujourd'hui, le personnage et surtout la pensée de Frantz Fanon. Alors c'est étonnant parce qu'aujourd'hui Fanon est une des références majeures des études coloniales ou postcoloniales dans tout le monde anglo-saxon. En France, peut-être, à partir des phénomènes récents, on le redécouvre. Mais si on regarde à peu près les recherches universitaires, etc., il s'est fait très peu de choses dans ces dernières années, dans les 20 dernières années, autour de la pensée de Fanon. Alors, c'est important parce que si on prend, c'est un choix arbitraire, en partie symbolique, mais le triptyque Lumumba, Fanon, Malcolm X, on pourrait ajouter Cabral ou d'autres, mais ou l'impact de la révolution cubaine aux Antilles hein, aussi, mais c'est toute une séquence de la revendication noire, alors qui par ailleurs se nourrit d'antécédents, Dubois aux États-Unis, C.L.R. James, qu'il y a eu un gros débat avec Trotsky. James, qui a écrit, en France, on ne connaît qu'un bouquin de lui qui s'appelle « Les Jacobins noirs sur la révolution haïtienne ». C'est quand même le bouquin majeur sur la révolution haïtienne, écrit par un noir qui, je m'excuse, était trotskiste et à la direction de la 4e internationale en 1939, qui par ailleurs était un grand spécialiste dans la presse anglo-saxonne du cricket comme révélateur du rapport colonial. Bon, il y a beaucoup d'écrits de James sur le cricket. Donc, il y avait ce fond-là. C'est-à-dire, c'est pas parti de zéro aux États-Unis, par exemple. Il y avait toute une histoire déjà de la pensée de l'émancipation du mouvement noir. Mais là, étant réactivé par la montée des luttes d'indépendance en Afrique, et on a trois personnages symboliques, Fanon, Lumumba, Malcolm X, dont la trajectoire illustre ce que pouvait être à l'époque la dynamique d'un mouvement noir, c'est-à-dire un mouvement, on peut lire Fanon, qui est un mouvement qui va qui revendique sa négritude. D'ailleurs, à l'époque, je ne crois pas qu'on parlait de fierté. C'est venu un peu plus tard, dans les années 60, etc. Parce que l'histoire fierté, honte, je suis fier d'être ceci, cela, non. On est fier de ce qu'on fait, pas de ce qu'on est. Mais enfin, bon, on comprend très bien que ça constitue, en tout cas, une réaffirmation face à une discrimination, à une oppression. Mais dans les trois cas en question, c'est une revendication qui cherche sa convergence avec des revendications universelles du mouvement social, du mouvement ouvrier, etc. Et les textes de Fanon, si on lit Peau noire et masque blanc, est une revendication à la fois de la négritude et en même temps, les passages, c'est dommage, j'avais pensé que je les aurais amenés, sont des passages magnifiques sur le thème j'ai le dos marqué par les coups de fouet ou le visage qui ruisselle de crachats, etc. Mais je ne veux pas me laisser ancrer, me laisser engluer dans une origine, dans une identité, etc. Je fais partie d'un devenir. Bon, alors tout ça, évidemment, est nourri en partie de la philosophie de Sartre. Alors qu'aujourd'hui, on est à l'inverse. Les crises d'identité aujourd'hui se tourne vers une légitimité des origines. Le pire, d'ailleurs, c'est dans les milieux, y compris ici en France, intellectuels juifs, où on réactive maintenant le mythe de peuple élu et où le génocide réinterprété comme holocauste devient la preuve négative de l'élection. C'est la confirmation par le génocide d'un statut particulier du peuple élu. Et bon, des gens qui ne sont pas des couillons, comme Jean-Claude Milner ou Benny Lévy, sont en plein dans la mythologie maintenant des origines et de la généalogie, alors que tous ces protagonistes-là des mouvements de libération des années 60 revendiquent leur particularité pour s'inscrire dans un devenir universel. Et la trajectoire personnelle de Malcolm X est l'illustration même de ça, c'est-à-dire passer de la revendication noire liée à une revendication religieuse des Black Muslims pour aboutir, c'est probablement d'ailleurs ce qui lui a coûté la vie, son évolution. Et à travers quoi l'évolution de Malcolm X ? Il y a une prise de conscience personnelle, il y a une intelligence évidemment singulière du personnage, mais c'est aussi ses voyages. C'est sa rencontre avec le Che, c'est les rencontres qu'il a faites, etc. Pourquoi ? Ça pourrait paraître anecdotique, mais ce qui me paraît intéressant de retenir, c'est comment ses aspirations à une libération, ses revendications de reconnaissance d'un peuple ou d'une race opprimée, etc., se tournent d'un contexte de montée de la révolution coloniale, se tournent vers ce qu'on va appeler de manière très générale le mouvement ouvrier de l'époque. Et les figures emblématiques de tout ça, c'est le Che, c'est Amilcar Cabral, c'est Lumumba, etc. Et il faut voir la comparaison aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une nouvelle montée de lutte contre le néo-impérialisme, contre la guerre globale, contre la recolonisation du monde, mais dont les figures visibles sur la scène internationale, c'est Ben Laden, c'est Zarqawi, etc. Et bon, ça résume assez largement les différences de contexte. J'ai oublié Ben Bella dans le lot, qui, avec ses limites et ses qualités, fait aussi partie, ou Ben Barka, puisqu'on est en France, après tout, c'est jamais inutile de rappeler le sort que, qu'a réservé l'État français en collaboration avec la royauté marocaine à ce pauvre Ben Darka.
Tu me prends tout pour le sou. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. L'habitant plante le maïs, c'est pour le gros marchand. Reste gros gens comme devant, pas le droit de dire comment. Taureau du Honduras, c'est bon pour le Texas, pour les petits y'a que les os. La viande c'est pour les gros, c'est pour tous les bandits, ceux du même acabit. Diamant de Bokassa, ça c'est secret d'état. Faut pas poser de questions quand on est juste un pion. Le rhum jamaïcain dans le gosier londonien, le riz du Vietnam, demande à l'oncle Sam s'il l'a bien digéré. Tu me prends tout pour dessous. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. Les perles de Jacmel brillent au bout de la belle. Tous les rois, même les sous, ont leur joli bibelot. Le cuir du Chili se retrouve à Paris, le café du Uruguay se déguste à Broadway, mais le fer de Managua perce le cœur des USA. Mes frères groupent la canne et leur machette dessus, du matin jusqu'au soir, et du soir au matin en Dominicanie. Miami ou Paris, peu importe le pays, c'est à chez eux qu'ils rêvent, un jour ils vont entrer quand l'abcès va crever. Tu me prends tout pour le sou. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt. Ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt. Ça va changer un jour. Les perles de Jacmel brillent au bout de la belle. Tous les rois, même les sots, ont leur joli bibelot. Le cuir du Chili se retrouve à Paris. Le café du Uruguay se déguste à Guadeloupe. Mais le fer de Managua perce le cœur des USA. Mes frères groupent la canne et leur machette dessus. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin en Dominicanie. Miami ou Paris, peu importe le pays, c'est à chez eux qu'ils rêvent. Un jour ils vont entrer quand l'abcès va crever. Tu me prends tout pour dessous. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt. Ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt, ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt.
Mai 68, la fermeture de la Sorbonne. Le 3 mai 1968, le recteur décide de la fermeture de la Sorbonne. Cette date marque le début d'un mois de mai parisien dans une année charnière pour le mouvement ouvrier. Ces événements sont cependant loin d'être isolés et s'inscrivent dans un contexte international de lutte, à la fois dans le bloc occidental mais aussi à l'Est. C'est aussi une période de multiplication des courants d'extrême gauche et libertaire. Alors, au-delà du côté folklorique, qu'en ont fait aujourd'hui les actuels détenteurs du pouvoir, est-ce que tu peux revenir sur cette période, pourquoi cette année-là, ses origines internationales et les apports et conséquences de mai 68?
Oui, alors, je crois qu'il faut dire d'abord quelque chose de carré et massif, c'est que, comme le récit est fait par ceux qui ont la parole, souvent, ça met l'accent, et finalement... Tu as choisi toi-même la date du 3 mai et pas celle du 17 mai, qui aurait pu tout aussi bien. C'est parce que le 17 mai, c'est le début de la grève générale. Alors évidemment, un événement est lié à l'autre, donc c'est légitime de parler du 3 mai. Mais dans le récit a posteriori de 68, il a été largement porté par des anciens étudiants. Enfin, on entend plus, disons, Cohn-Bendit ou d'autres, y compris nous, sur 68, que le livre de Georges Segui sur le mai des prolétaires, par exemple. Bon, il a peut-être été lu dans la CGT, mais c'est pas ce qui passe du point de vue média, etc. Or, ça, c'est le point, moi, qui m'importe le plus à rectifier aujourd'hui. C'est comment se construit, comme s'est construite une mythologie de la Révolution russe, une mythologie de 68. Mais au fil des anniversaires, on a vu se construire des récits de 68. Alors, il y en a un qui était finalement porté par l'arrivée au pouvoir de Mitterrand et des socialistes des années 80, qui n'ont voulu retenir. Henri Weber est un des fabricants de ce récit-là. Mai 68 comme départ d'une révolution culturelle, ou comme on l'a dit plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, d'une révolution sociétale plus que sociale. C'était la modernisation des mœurs, c'était un ajournement culturel, etc., etc., mais pas du tout, mais qui relativise la dimension grève générale. Or, s'il n'y avait eu que le mouvement étudiant en 68, ça serait intéressant, mais on en parlerait comme on parle du mouvement des Provos à Amsterdam en 67 ou des étudiants de Berkeley dans les années 60, ou du mouvement du SDS, des étudiants allemands de Berlin et de l'Université critique de Berlin. Si 68 est une date symbole dans le monde, et pas seulement le mai français, je crois d'abord parce qu'il s'est agi de la grève générale la plus longue et la plus massive de l'histoire. Alors après, les interprétations vont, est-ce que c'était la dernière des grèves héroïques du 19e et 20e siècle? Est-ce que c'était la préfiguration des mouvements sociaux du 21e siècle? Probablement un peu des deux. Hein, c'est un moment charnière où il y a de l'ancien, et puis quand des footballeurs se mettent en autogestion, il y a quelque chose de nouveau. Par ailleurs, bon, c'est loin derrière, parce qu'aujourd'hui, ils sont loin d'être en autogestion dans les clubs performants. Le dernier qui a revendiqué l'autogestion des footballeurs, c'était Socrates. Il disait, qu'est-ce que vous pensez de votre entraîneur, grand joueur brésilien, membre du Parti des Travailleurs à l'époque. C'est mon entraîneur, j'ai le rapport avec lui que j'ai avec un patron. C'est un exploiteur, je suis un exploité. Bien payé, mais enfin quand même. Bon, alors Donc, je crois que le problème, c'est d'un côté, la force symbolique 68, c'est la grève générale, la dernière de cette dimension-là, et la plus importante, y compris pour la France, dans laquelle s'expérimentent, y compris des formes relativement nouvelles de démocratie, de contestation, etc. Et en même temps, 68 est devenu, bon, mais ça, le résumé, effectivement, est devenu un événement mondial parce qu'il était en écho ou en résonance avec une série d'événements cumulés dans la même année. Le printemps de Prague en Tchécoslovaquie jusqu'à l'intervention soviétique en août, l'offensive du Tet au Vietnam en février qui a bien failli aboutir, et puis même moins spectaculaire, mais les Jeux Olympiques de Mexico avec les points levés de Smith et je ne me rappelle plus quel était le second, les coureurs de 400 mètres, et puis le massacre de Tlatelolco au Mexique, c'est-à-dire la répression et plusieurs centaines de morts sur la place des Trois Cultures à la veille des Jeux Olympiques, et des mouvements étudiants importants, y compris au Pakistan, et puis d'autres, bon, et un petit peu en Pologne. Donc, en fait, 68 est devenu le symbole de tout ça, c'est-à-dire d'un contexte particulier, mais qui se reflétait déjà dans le cours du mouvement. Si on prend avant le 3 mai, puisque les choses s'enchaînent, le mouvement qui est apparu, à tort ou à raison, comme le détonateur, c'est-à-dire le mouvement sur le campus de Nanterre, et notamment la journée du 22 mars, on a fait à ce moment-là, juste avant les vacances de Pâques, une journée portes ouvertes, dans laquelle Bon, d'abord, si on compare avec aujourd'hui, faut pas exagérer. Hein, il y avait peut-être 400, 500 étudiants. C'était pas mal pour l'époque, mais c'était quand même une petite minorité. Et les commissions étaient sur les réformes universitaires, sur les luttes anti-impérialistes, c'est-à-dire le Vietnam principalement, et les luttes antibureaucratiques, principalement la Tchéco et la Pologne. Et le mouvement lui-même se définissait justement, à différence d'un syndicat étudiant, comme un mouvement politico-syndical, il a été éphémère, mais on voit bien l'état d'esprit, anticapitaliste, antibureaucratique et anti-impérialiste. Bon, c'est ça qui était en germe à un moment où il semblait que ces différentes facettes de résistance à l'oppression et à l'exploitation s'articulaient, se combinaient les unes aux autres et pouvaient être liées. Par ailleurs, il faut ajouter aussi que a joué un rôle dans la genèse, au moins de la première phase du mouvement étudiant, la tentative d'assassinat de Rudi Dutschke, qui était la figure du mouvement étudiant allemand de Berlin à ce moment-là, et qui était d'autant plus touché, d'autant plus directement au cœur, une petite minorité militante en France, hein, mais notamment justement, oui, les anards à Nanterre du groupe de Dutheil et Cohn-Bendit, ou nous à la JCR à l'époque, c'est que on percevait Dutschke un peu comme notre symétrique, là aussi, comme c'était notre histoire, et puis on l'avait rencontré puisqu'on avait été manifesté en janvier, fin janvier 68 à Berlin, la grande manifestation européenne sur le Vietnam. Donc c'était à peu près la même culture, et tous les gens de cette époque sortaient de ce creuset-là, Tariq Ali en Angleterre, etc. Voilà, donc il y avait ce mouvement d'identification. Alors maintenant, il faut voir une vraie question tout de même. Peu importe aujourd'hui, 40 ans ou presque après, on ne va pas discuter sur... et on n'a pas d'instrument de mesure pour dire à quel point c'était une situation pré-révolutionnaire, révolutionnaire ou pas, etc. C'est important de mettre l'accent sur ce qui aurait pu être fait pour aller plus loin. Ça, oui, de montrer que, comme dans toute situation, il y a eu des moments où on pouvait faire autre chose, où il y a eu le moment où le mouvement s'est trouvé à des carrefours ou à des croisements de route, probablement à la veille, pendant le départ de De Gaulle à Baden-Baden et la réunion à Charletti, probablement à Charletti où il y avait le meeting Mendès-France, etc., où ils ont essayé de mettre sur orbite Mendès-France. Probablement, il y a eu d'autres moments, au moment du rejet de la première mouture des accords de Grenelle présentée par Ségui en Assemblée générale à Renault, quand il s'est fait siffler. Bon, il y a eu plusieurs moments où l'affaire pouvait rebondir. Donc nous, je crois que c'était à juste titre notre rôle que d'insister sur ce qui était possible de faire différemment pour aller plus loin. Après, est-ce que pour autant la révolution sociale était à l'ordre du jour ? A posteriori, on a des éléments de réflexion tout de même qui sont que par rapport à l'ampleur d'un tel mouvement, il s'est fini par un compromis relativement peu coûteux pour la bourgeoisie. Les acquis de 68, ils ne sont pas nuls en termes de hausse de salaire, etc., ou de droits syndicaux dans l'entreprise, mais ils ont, loin s'en faut, pas la portée symbolique et mémorielle qu'ont eu les conquêtes du Front populaire avec les congés payés ou la libération avec la sécurité sociale. Pour un rapport de force qui pourtant semblait écrasant en période de croissance et en période où il y avait en France moins de 200 000 chômeurs, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque un chômage de friction, c'est-à-dire d'adaptation des qualifications au marché de l'emploi, mais pas un chômage structurel de longue durée comme aujourd'hui. Donc, une situation sans chômage, le rapport de force du salariat est évidemment considérable. Donc, les résultats sont faibles. Et le deuxième problème, moi, qui m'amène à me poser des questions sur les limites de 68, justement sur les limites d'un mouvement très fort, mais posé ou porté au terme d'une phase de croissance, de relative prospérité, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pauvres, évidemment, etc., mais c'est que les effets, finalement, de différenciation dans le mouvement ouvrier ont été relativement faibles. Il y a eu l'apparition d'une extrême gauche. Bon, c'était nouveau. Peut-être que quand on était exclus, nous, du PC en 66, En 68, au début de 68, on devait être 200, 300 maximum. Les Mao, un peu plus. Mais bon, alors évidemment, 68 a permis que ces courants-là, qui auraient pu disparaître par usure, par découragement très vite, ça a été pour nous la confirmation du fait qu'on n'était pas complètement des zombies et que dans nos polémiques avec le PC, parce qu'à l'époque, la question était laquelle ? C'est est-ce que la révolution est encore concevable dans des pays développés ? C'était ça quand même le débat. La prospérité relative des 30 glorieuses fait que les révolutions ne sont plus à l'ordre du jour, point, et qu'aujourd'hui, il faut gérer le compromis social raisonnablement. Et bon, nous, non, on est toujours révolutionnaires. C'était un acte de foi ou un acte de raison, les deux. 68, vous voyez, grandeur nature, qu'on ne rêve pas. Il y a quand même, et puis derrière 68, il y a le mérampant italien, il y a l'effet de contagion en Europe, etc. Donc ça, c'était important, mais en même temps, donc, a survécu une gauche radicale qui s'est arrachée ou libérée de l'emprise des appareils traditionnels, syndicaux et politiques, mais il y a eu moins d'effets en profondeur immédiat, en tout cas, après, c'est autre chose, que même en 47, au moment des grèves Renault, dirigées en partie par Lutte ouvrière à l'époque. Ou même en 1936, avec l'apparition du pivertisme, d'une gauche socialiste, etc., etc. L'effet a été très limité. Il y en a eu un, qui a été l'effondrement de la social-démocratie corrompue dans la guerre d'Algérie, ou compromise dans la guerre d'Algérie. Mais le PC est sorti de là, les élections présidentielles 69, avec Duclos à 22%, et un parti socialiste à 5%, avec Defferre et Mendès comme ticket. Bon, alors... Si c'était un mouvement aussi mûr d'un point de vue révolutionnaire, il pouvait être battu ou canalisé par des bureaucrates, mais il aurait dû avoir des différenciations plus marquées dans le mouvement ouvrier. Je crois que la limite de ce qui en est sorti indique peut-être a posteriori une limite du mouvement lui-même. Alors, en revanche, il y a eu des effets syndicaux, notamment par un renforcement de la CFDT, et un renforcement d'une CFDT qui n'était pas la CFDT de Chérec ou de Nicole Nota, hein, mais quelqu'un comme Fredo Krumnov, dans la branche textile, etc. Mais il y avait une gauche réelle dans la CFDT à ce moment-là, peut-être pas révolutionnaire, mais en tout cas qui tirait de 68 un discours radical sur l'autogestion. Bon, ça oui, mais disons, ça fait partie des limites. Alors aujourd'hui, on a les deux discours, celui que j'ai dit, c'est-à-dire réduire 68 rétrospectivement à un grand monôme étudiant de modernisation culturelle. Ça a été un peu le discours des 68 ans recyclés dans la social-démocratie. Il y a autre chose, il y a les discours de Finkielkraut et consorts qui est... là, qui est carrément la faute à 68, hein, ou de Luc Ferry, etc. La faute à 68, c'est le début de la décomposition, du relâchement des mœurs, de la perte du goût du travail. Une espèce de libéralisation libertaire des mœurs qui est en même temps une désagrégation sociale. Ça, c'est aujourd'hui, ça devient même peut-être dominant par rapport au discours précédent sur le retour à l'ordre, tordre le cou à tout ce qui a pu rester ou être hérité de ça. Bon, ça fait pas, c'est le fonds de commerce de Sarkozy ou d'autres, entre autres, aujourd'hui. Bon, par rapport à ça, moi, les commémorations, et d'ailleurs, ça se comprend psychologiquement, plus l'âge augmente, comme dit, les 10 ans de 68, une interview 68. Les 20 ans, en 88. En 98, les 30 ans, maintenant 40 ans, bon, ça devient éprouvant. Mais en même temps, je crois qu'il y a quand même un petit enjeu derrière. C'est justement quand même, il faut combattre ces récits dominants, aujourd'hui devenus dominants, en fait, de 68 et de ces enjeux en France et internationalement.
Quand les cigares changeront de bouche, quand les stars elles changeront demain, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. remarqué même en Rockefeller. Je resterai quand même fils d'ouvrier, qu'un employé, un bas salaire. C'est une chose à pas oublier. Oui, mais... quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smoking changeront de valise. Alors la vie, les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront demain, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le botin, quand les gibus ils changeront de tiette, quand les vagouses elles changeront de doigts, quand l'homère ils changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
La 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 la, les PDG.
Allez, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et dans l'émission les oreilles loin du front. Et on continue à parcourir le XXe siècle avec Daniel Ben Saïd et on arrive en 1970.
Le 26 août 1970, une dizaine de femmes déposent sous l'Arc de Triomphe une gerbe à la mémoire de la femme du soldat inconnu. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Cet acte marque l'acte de naissance du mouvement féministe en France dans les années 70, car depuis l'histoire du mouvement ouvrier, il y a eu une difficulté inhérente au combat militant à différencier justement la place des femmes au sein des mouvements. Même jusqu'en 68, les femmes étaient présentes dans les manifestations, mais les porte-paroles étaient souvent essentiellement des hommes. Et en fait, c'est après justement cette période d'ébullition née de 68 que la parole des femmes a pu prendre une forme autonome par rapport justement aux appareils qui étaient un peu décrédibilisés par l'expérience de 68. Donc ce mouvement féministe marque une évolution importante dans l'histoire du militantisme. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est selon vous aujourd'hui l'influence, l'importance de ce mouvement, mais aussi peut-être les limites aussi auxquelles il conduit le militantisme lorsque on est marqué par un marxisme qui a toujours... peut-être un peu trop considérer la question de l'exploitation capitaliste comme quelque chose d'important face à des enjeux plus secondaires.
Oui, d'abord, on peut prendre comme référence, puisqu'il faut un symbole de date de naissance, le 26 août 68, c'est celui qu'on retient maintenant. Mais pas plus pour le mouvement femme que pour d'autres mouvements, il y a de dates de naissance absolue. C'est-à-dire que, d'une part, le mouvement, s'il est apparu ou s'il s'est cristallisé symboliquement autour de ce dépôt de gerbes à l'Arc de Triomphe, la fermentation existait dans les années précédentes. Et bien qu'on voit peu, ça a été souligné cette année à l'occasion de l'anniversaire 68, de figures féminines sur les tribunes ou dans les têtes de cortèges de manifestations en 68. Si on va un peu au-delà, on sent bien qu'il y avait une fermentation, quelque chose qui montait en puissance. Par exemple, dans le film de Chris Marker, Classe de lutte, pardon, sur les grèves de la Rodiaceta ou de l'horlogerie avant 68 à Besançon, on voit justement des figures de femmes, et ça a été tourné avant 68, revendiquant leur place dans le syndicalisme et dans la lutte syndicale, mettant d'ailleurs sur le tapis les contradictions avec l'organisation de leur vie quotidienne et de leurs tâches domestiques. Donc il y a quelque chose qui était là déjà, disons, en France, et a fortiori à l'échelle internationale, puisque... les traditions, disons, et les cultures du mouvement féministe sont aussi différenciées en fonction de l'histoire des pays. Il y a une histoire moins discontinue, disons, du féminisme anglo-saxon que du féminisme en France. C'est-à-dire que dans les années 60, il existait déjà un mouvement féministe aux États-Unis ou en Angleterre, dont on trouve d'ailleurs, puisque les deux numéros qui font date de la revue Partisan, qui ont dû être publiés eux aussi en 70, peut-être en 71, j'ai une petite incertitude, deux numéros spéciaux sur le féminisme, qui ont aussi une valeur fondatrice, étaient faits dans plus des deux tiers, si mes souvenirs sont bons, de traductions de textes, notamment du mouvement féministe américain ou britannique. Pour ce qui est de la France, en fait, on pourrait parler d'une naissance qui traduit deux lames de fond ou deux mouvements de fond dans la société. D'un côté, l'entrée massive de la main-d'œuvre féminine dans le salariat moderne, qui est une des conséquences des années de croissance et notamment du développement de nouveaux secteurs de services. Et puis d'autre part, ou parallèlement, et c'est cohérent, également une montée en puissance de la mixité dans l'enseignement supérieur, qui a d'ailleurs été, même si on le montre parfois exagérément en épingle, dans les prémices des luttes à Nanterre, puisqu'on rappelle volontiers que la mobilisation sur la mixité de la cité universitaire a été un des préludes au mouvement étudiant de Nanterre. Mais moi, j'ai connu déjà ce problème-là. Pour l'anecdote, ça vaut quand même la peine de le rappeler, dans la jeunesse communiste, puisque dans les années 60, j'adhérais aux jeunesses communistes en 62, au moment des manifestations de Charonne, j'étais dans un lycée mixte. Et paradoxalement, quand on adhérait à la jeunesse communiste, on a voulu nous faire faire deux cercles distincts. Un cercle garçon des jeunesses communistes et un cercle filles qui s'appelait de l'Union du JFF, l'Union des jeunes filles de France. Ça, c'est un peu le Collège des oiseaux. Et il y avait quelque chose de ça, avec le moralisme derrière, qui était l'héritage de Jeannette Vermeersch, la politique familialiste et nataliste, qui était celle du Parti communiste. Donc, ces questions étaient dans l'air du temps. Maintenant, la date qu'on retient comme date pivot, c'est une naissance et aussi une renaissance. Elle tend à faire oublier qu'il y a eu des mouvements féministes en France, et notamment au XIXe siècle, à l'époque de Flora Tristan, de Louise Michel, et même assez puissants. Par exemple, ce qu'on sait trop peu, et ça, j'y reviendrai à propos du rapport de l'héritage marxiste à la question femme ou au féminisme, c'est que, par exemple, la renaissance du mouvement ouvrier en France après la grande défaite de juin 1948 s'est faite dans une large mesure, si on regarde les années 1860, la plupart des réunions, par exemple, dans les quartiers parisiens, portaient pas sur des questions de revendications sociales, type salaire, etc., mais étaient des réunions autour du thème de la famille, du mariage et du divorce. En gros, la reconstruction d'un mouvement social avant la Commune de Paris s'est faite presque majoritairement sur ces thèmes-là. Et avec un affrontement, évidemment, avec l'ordre moral, religieux, familial, etc. Alors tout ça s'est un peu perdu, ou la continuité en a été rompue, notamment du fait des effets, pas seulement en Union soviétique, mais finalement de l'onde, on peut dire de la diffusion, je dirais comme ça, de ce que Trotsky appelle dans un des chapitres de La Révolution trahie, le thermidor au foyer. Et c'est vrai que si on comparait ce qui a été fait en matière de libération des femmes, je ne dis pas parfait, mais dans les premières années de la Révolution russe, il faut rappeler quand même que ça s'est allé jusqu'à l'abolition de l'inceste. À une époque où Freud n'était pas d'une lecture très courante, etc., et au divorce par simple constat, non sans contradiction d'ailleurs, parce que dans une société où les rapports de sexe demeurent inégalitaires, le divorce par simple constat s'est traduit souvent par des répudiations et des armadas d'enfants abandonnés. Ils ont dû faire machine arrière. Mais enfin, il y avait en tout cas une intention assez fortement marquée et assez audacieuse par rapport aux mœurs de l'époque. qui a régressé par la suite, et là, avec le rétablissement, au contraire, de toutes les formes d'autorité dans l'État, dans le parti et dans la famille. C'est ce qu'exprime le thermidor au foyer, donc, qui se traduit, y compris par une nouvelle législation sur la famille, sur l'héritage, etc., etc., dans les années 30. Et ça, quand je dis ça s'est diffusé internationalement par les partis communistes, notamment en France, où j'évoquais à l'instant la figure symbolique de Jeannette Vermeersch, qui était la compagne du secrétaire général Maurice Thorez et qui a été réellement une militante de l'ordre familial et faisant au contraire du Parti communiste, force dominante du mouvement ouvrier français à l'époque, un véritable chevalier de l'ordre moral et familial. Bon, donc disons que ça, cet étau a commencé à se desserrer avant 68. 68 a été un formidable accélérateur et on a l'émergence de ce mouvement féministe-là. Alors maintenant, à partir de la date symbolique du 26 août 70, je crois qu'il serait intéressant de revenir, avec le recul dont on dispose aujourd'hui, sur le fait que dans un premier temps, comme dans d'autres phénomènes sociaux de l'époque d'ailleurs, il y a un rapport relativement étroit entre la montée en puissance du mouvement social, du mouvement ouvrier, syndical, etc., et de ce mouvement des femmes. Et une sorte de convergence ou d'alliance assez naturelle entre des thèmes sociaux. Et par exemple, est resté dans les mémoires un rapport historique, parce que c'était presque une révolution culturelle dans la CGT, un rapport de Jean-Louis Moineau à l'époque... secrétaire confédéral, ça devait être en 72-73, bon, qui, justement, modifiait largement et prenait acte des conséquences, justement, de la massification du salariat féminin. Et parallèlement, mais de manière combinée, je crois, à l'époque, je ne crois pas embellir a posteriori, on a l'irruption des thèmes sur les violences faites aux femmes, sur le droit à disposer de son corps, des thèmes qu'aujourd'hui, mais pas à l'époque, on qualifierait de sociétaux, mais qui, à l'époque, étaient étroitement imbriqués, qui vont alimenter la montée, là aussi, des groupes femmes de conscience, des différentes revues féminines qui apparaissent à l'époque. Mais si on feuilletait aujourd'hui ce qu'a été la presse féministe, Remue Ménage, les Cercles Flora Tristan, Le Torchon Brûle, puis, un peu plus tard, les Cahiers du Féminisme, c'était des publications qui liaient étroitement la revendication spécifique des femmes avec le mouvement social ou ce qu'on appelait à l'époque le mouvement ouvrier. Et je crois que ce qui, à l'époque, était étroitement lié, sûrement s'est dissocié comme le reste. Hein, dans leur livre sur le nouvel esprit du capitalisme, les sociologues Boltanski et Chiappello parlent de critique artiste et de critique sociale de la société. Ils entendent par critique sociale ce qui touche aux revendications de salaire, d'emploi, de conditions de vie, par critique artiste, ce qui touche plus à la vie quotidienne et aux formes d'aliénation. Tout ça était fortement lié, même, je crois, jusque ce qui a été peut-être une des grandes campagnes, parce qu'on retient le vote de la loi Veil, mais bon, c'est qu'un chaînon dans une véritable mobilisation, hein, où c'est une bataille législative, il ne faut pas la minimiser, mais qui a pu avoir lieu parce que derrière, il y a eu toutes les mobilisations préalables. D'abord, le manifeste sur le droit à l'avortement, les procès comme le procès de Bobigny qui ont fait date, et puis toute la deuxième moitié des années 70, ça a été d'ailleurs l'objet d'un débat important sur le type de campagne qu'on pouvait mener, une vraie campagne démocratique menée par le MLAC, le Mouvement pour la Libération de l'Avortement et la Contraception, qui était un mouvement mixte, de campagne unithématique et qui a culminé, je crois, dans la plus grande manifestation sur ces thèmes-là qui devait être en 1979. Mais à ce moment-là, on a commencé à voir diverger finalement cette espèce d'imbrication étroite entre revendications sociales généralistes, je dirais, hein, et revendications spécifiques des femmes avec une tendance incarnée notamment d'ailleurs par ce qu'on a appelé Psyché-Po et ce qui a donné l'essence aux éditions des femmes, animée principalement par Antoinette Fouque, qui finalement a dissocié les deux questions et ce qui s'est traduit, y compris par la position qui, à mon avis, en dit plus que des débats théoriques de Psyché-Po sur l'élection présidentielle de 1981 qui a été de soutenir Mitterrand dès le premier tour, en disant finalement, les partis étant masculins par définition, bon, on peut voter pour eux comme une étape et un moindre mal, mais il n'y a pas de stratégie alternative d'ensemble à ces partis-là. Il y a d'un côté une radicalité, notamment sur les questions de violence, de vie quotidienne, du corps, du mouvement féministe, mais qui commence à finalement se déconnecter des revendications sociales au moment même où la mise en œuvre des politiques d'austérité en Europe pose des problèmes sociaux majeurs spécifiques d'un certain point de vue aux femmes, même si elles n'en ont pas l'exclusivité, mais qui est la détérioration des différents services sociaux, des crèches, qui aggravent simplement la vie quotidienne ou la montée du chômage, qui, même si elle ne va pas se traduire par une expulsion totale comme en d'autres périodes des femmes du monde du travail, va se traduire par une précarisation ou un maintien des inégalités devant l'emploi, le salaire, etc. Donc on a eu cette espèce de déconnexion de mouvement qui marque, je crois, comme pour le reste, un tournant au seuil des années 80 du mouvement des femmes tel qu'il a été dans les années 70. Il n'a pas disparu. Alors ça, c'est l'autre problème, c'est que ce qui tend à un petit peu être moins visible, disons-le comme ça, une formule générale, c'est l'aile militante organisée du mouvement des femmes. Maintenant, les effets sociaux, eux, c'est-à-dire les effets en profondeur de choses qui ne sont plus acceptées ou acceptables, ou qui ont changé profondément, rien n'est irréversible et rien n'est jamais acquis définitivement aux femmes, pas plus qu'aux hommes, comme chantait l'autre. Mais il y a des effets en profondeur qui continuent à faire leur chemin dans les organisations syndicales, dans les partis politiques. En revanche, on a vu, je crois, une hécatombe des publications que je citais tout à l'heure qui ont peu ou prou disparu les unes après les autres. Donc, mais socialement, le mouvement néanmoins subsiste. Alors bon, ce qu'il en reste aujourd'hui... Là aussi, je crois que c'est difficile à définir parce qu'il y a évidemment des acquis, encore une fois, à défendre puisqu'ils sont périodiquement remis en cause sur le droit à l'avortement ou sur une série de droits ou en particulier sur les femmes immigrées, etc. Mais disons qu'il y a un héritage, il y a une culture, là encore, une mémoire finalement du mouvement des femmes qui a percolé, comme diraient certains, c'est-à-dire qui s'est diffusé en profondeur dans la société, et ça, c'est plus difficilement réversible. Alors, est-ce que la loi sur la parité en est l'illustration ? Dans une certaine mesure, mais elle est aussi l'illustration d'un échec, c'est-à-dire qu'il a fallu une loi pour imposer... Personnellement, je dis franchement, je n'avais pas signé le premier appel là-dessus, j'étais assez perplexe, parce que c'est introduire quand même une différence... biologique sur le champ politique. Bon, maintenant, si c'est un point d'appui, certains l'ont pointé d'ailleurs comme un point d'appui temporaire pour contraindre à s'approcher d'une parité, mais qui est effectivement, en tout cas, plus juste, si on veut prendre une mesure volontariste, que les quotas. Parce que le seul quota concevable, dans ce cas-là, c'est l'égalité qui correspond à une égalité de fait, alors que les quotas, il n'y a pas de critères pour calculer quelle serait la bonne proportion. Bon, voilà. Alors maintenant, ce qu'il en est de ça et du marxisme, c'est vrai que, disons que le mouvement féministe, sous sa forme militante, a contribué à poser un problème qui n'est pas tout à fait nouveau, il ne faut pas exagérer, mais sur lequel, quand même, aujourd'hui, la culture des mouvements sociaux, de la gauche radicale a évolué, c'est-à-dire... De ne pas hiérarchiser une série de dominations, pas dire il y a une contradiction principale, des contradictions secondaires, etc., mais de considérer que tous les êtres humains sont multiples et que donc ils subissent, avec des intensités différentes selon les moments de leur vie, l'oppression et l'exploitation au travail, l'oppression sexuelle ou de genre dans la famille ou au travail aussi d'ailleurs, ou dans la vie quotidienne, etc., une oppression qui peut être de race ou ethnique, et bien d'autres encore. Donc, on a une combinaison, un bouquet, une gerbe, finalement, de résistance à des oppressions diverses. En revanche, le vrai débat, par exemple, avec des sociologues de l'école Bourdieu, est de savoir si toutes ces oppressions ont exactement la même fonction dans la société. Bon, moi, personnellement, je tends à croire, à penser qu'il y en a deux qui ne jouent pas exactement le même rôle et autour desquels se structurent quand même beaucoup de choses, qui est le rapport d'exploitation sociale et le rapport de domination de genre. Ça remonte très loin. Rien ne dit qu'en éradiquant les conditions d'exploitation, on éradiquerait, là encore, l'évolution du psychisme, de ce qu'on appelait les mœurs, ne marche pas au rythme des législations parlementaires. C'est pourquoi, d'ailleurs, on en était venu, et on le maintient aujourd'hui, à la nécessité d'un mouvement autonome de femmes, puisque rien ne dit qu'en finir avec le capitalisme, ça serait mécaniquement, automatiquement, en finir avec l'oppression des femmes. Mais donc, il y a une pensée aujourd'hui plus articulée de comment peuvent converger, autour de quel thème, ces différentes résistances ou mobilisations contre des formes de domination qui ne sont pas réductibles les unes aux autres. Je crois que ça excéderait le propos là, mais je crois qu'une notion comme celle d'hégémonie, héritée principalement, mais pas seulement d'ailleurs, de Gramsci, en fait, c'est ce qu'on retient généralement, aide à penser comment ces différentes, finalement, ces différents griefs face à la société dominante peuvent s'articuler les uns aux autres pour développer une contre-culture d'ensemble. Alors maintenant, bon, un dernier mot peut-être sur quand même l'héritage marxiste là-dessus. Il n'est pas si ringard que souvent on l'entend. Bon, je ne dirais pas que Marx était un grand pionnier du féminisme, au moins dans sa vie quotidienne. Bon, il était assez conformiste, disons-le, par rapport à ses filles ou à sa vie conjugale. Engels, beaucoup moins. Engels, de ce point de vue-là, et ce n'est pas par hasard que Engels est quand même... d'une certaine manière un pionnier, même si aujourd'hui on peut discuter à la lumière d'études dont il disposait pas à l'époque, des thèses défendues dans l'origine de la famille, de l'État et de la propriété. Bon, mais enfin, et il mettait au moins en accord sa vie quotidienne là-dessus avec une pensée, lui, non conformiste, que ce soit d'ailleurs sur la mort ou sur la famille, puisqu'il a vécu à la colle, selon le langage consacré à l'époque, avec une prolétaire irlandaise, ce qui était doublement scandaleux dans la bonne société manchestérienne de l'époque. Mais plus profondément, au-delà des anecdotes, Marx lui-même, en fait, fait... de la condition des femmes, on peut dire qu'il y a un écart entre son propos et puis, bon, mais on peut être machiste éclairé, c'est déjà un progrès, et ne pas prétendre être totalement révolutionné dans sa tête. Mais, par exemple, je dirais que chez Marx, pour moi, c'est un des trois critères de ce que serait un réel progrès, pas le progrès quantitatif de combien de tonnes d'acier ou de charbon, etc. Il y en a trois, c'est la réduction du temps de travail massive, donc la diminution du temps de travail contraint. C'est tout ce qui finalement singularise les besoins des individus et qui fait de chaque individu un être unique. Et c'est justement la transformation, mais du rapport entre les sexes ou entre les genres, comme on le dit aujourd'hui. Parce que, et ça il le dit explicitement, le rapport entre l'homme et la femme, c'est la première expérience et finalement la plus révélatrice du rapport à la différence, du rapport à quelqu'un de différent. Et d'où, finalement, d'un monde où il y a une infériorité des femmes, il y aura également une discrimination de l'immigré, de l'étranger, etc. Donc je crois que ça, c'était notamment dans les textes de jeunesse. Bon, je ne dis pas après, il faut suivre les hauts, les bas, le meilleur et le pire du mouvement ouvrier, dont Marx n'est pas d'ailleurs responsable toujours.
Voilà, on est donc sur Fréquence Paris Pluriel. On vient d'entendre 1971 avec Daniel Ben Saïd. Et puis la semaine prochaine, on entendra la fin du 20e siècle racontée par Daniel Ben Saïd, par Tonton Bensa carrément. On parlera de 1973 et du Chili, de 1981 et des années Jean-Jacques Goldman, de 1989 et la chute du mur de Berlin, et puis de 1996, de Saint-Bernard et des mouvements sociaux de cette fin de 20e siècle.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, c'était en direct du cœur de Babylone, avec ce soir au pied du sapin notre petite de pépite de chocolat en forme de pomme d'amour, avec son nouveau camion, avec son nouveau camion de pompier tout neuf, c'était Raphaël. Ce soir, la future jeune garde de la Radio Libre était aussi tapis dans l'ombre des locaux de FPP, puisqu'il y avait Aude, il y avait aussi Alexandrine, et il y aura bientôt les indéboulonnables échos du Capricorne, puisque voici Claudie et Claudia, ciao.